en 1800, petit progrès. D'abord, il avait fait, j'ai oublié de vous dire, en 98, il avait fait nommer son frère Joseph ambassadeur auprès du pape. Et il expliquera plus tard à Bertin, il entrait dans ma politique d'avoir le pape pour moi. Vous comprenez, c'était mettre du coup les prêtres de mon bord dans mes vues ultérieures sur la France. Le voilà le 5 juin 1800 à Milan. Décidé, déclare-t-il, à punir de mort, quiconque fera la moindre insulte à notre commune religion. Et il ajoute, il a un auditoire ecclésiastique, la France a rouvert les yeux à la lumière et ne demande qu'à nouer les liens étroits avec l'Église de Rome et son illustre chef. Commentant tout ça, avec le cynisme qui lui est habituel, il dit à Röderer, il faut savoir ce qu'on veut. Quand j'étais en Égypte, je me suis fait mahométan avec les mahométans. Eh bien, chez les Français, comme chez les Italiens, je me fais papiste. Si je gouvernais un État juif, je commencerais par relever la synagogue. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va regarder l'état des esprits. En France, les esprits sont bons. Je veux dire que du côté de la haute classe, la classe distinguée, il y a eu renversement. Deux fois déjà, je venais de vous dire qu'avant 1789, la bonne société était irreligieuse. Mais ça a changé maintenant. Le bon ton, c'est maintenant d'être aimable du côté du christianisme. On ne va pas à l'église, naturellement, ce serait ridicule. Vous ne voyez pas Chateaubriand aller à la messe, par exemple. Mais Chateaubriand est en train de préparer son génie du christianisme qui est appuyé par toute la bonne société. Les salons ne sont maintenant que sourires du côté de l'église. Alors ça, c'est bon. Il y a tout de même un groupe d'opposants. Il y a des gens qui n'en veulent pas, cette idée de rapprochement de la République consulaire française avec l'église. En particulier, l'Institut. Et Bonaparte fait partie de l'Institut. C'est peuplé de francs-maçons, il y a la Cabaniste, vous savez Cabaniste qui est l'homme qui a dit « je jure que Dieu n'existe pas ». Il y avait Carnot qui n'est plus l'Institut, mais en fait qui rôde autour. Carnot qui est très vigoureusement anti-religieux à propos de Larvellière, qui était un de ses ennemis. Vous savez, Larvellière, c'est un des gens propres du directoire qui avait voulu contrôler financièrement les généraux et qui s'était fait détester par Carnot. Larvellière était un homme qui avait essayé de créer quelque chose, pas tellement idiot, mais dont on s'est beaucoup moqué, qu'il appelait le culte théophilanthropique. Eh bien, Carnot disait, ça réussira jamais, son machin, son culte philanthropique, parce que, disait Carnot, pour qu'une religion réussisse, il faut qu'elle ait deux conditions, qu'elle soit à la fois absurde et inintelligible. Vous aviez aussi le clan Volney, le clan Marie-Joseph Chénier, le clan Madame de Staël, le clan Benjamin Constant, où on a une espèce de haine viscérale à l'égard des curés. Et puis, vous avez Lafayette. On oublie toujours que Lafayette était très violemment anticlérical. Alors Bonaparte, à l'égard de ces gens-là, qui veut avoir avec lui, il les persuade en douce. C'est l'homme des deux langages, vous savez, Bonaparte, selon ses interlocuteurs. Alors du côté des bien-pensants, il est très bien-pensant, et du côté des mal-pensants qu'il veut amener à sa politique, il leur dit des choses comme celle-ci. À Kléber, par exemple. Kléber était très mal-pensant, il est très, très violemment anti-religieux. Quand il lui avait laissé des instructions de départ, vous vous rappelez, hein, il lui avait donné rendez-vous à Aboukir le 24 août 99. Lorsque le malheureux Kléber y est arrivé, il n'y avait plus de Bonaparte. Il est parti le 23, mais il lui avait laissé des instructions. Et bien, dans ces instructions, il y avait ceci comme politique précise à l'égard des curés égyptiens, enfin des imams, des mullahs, etc. La bonne méthode, disait Bonaparte, est d'endormir le fanatisme pour le déraciner ensuite. À Lafayette, il dit, avec mon concordat que je prépare, je mettrai les prêtres, en fait, encore plus bas que vous ne les avez laissés. Vous verrez, dit-il, vous verrez les évêques ramper devant mes préfets. À Volney, il va encore plus loin. Mon concordat, et que je veux l'arranger, dit-il, ce sera la vaccine contre la religion. Dans 20 ans, on n'en parlera plus en France de ces histoires de l'autre monde. Et Fontane explique à Lucien, on peut rire des augures, toutes portes closes, bien sûr, et entre gens de bonne compagnie, mais il est bon de manger avec eux les poulets sacrés. Une fois qu'on sera arrangé avec le pape, il n'y aura plus moyen pour Cabanis de jurer que Dieu n'existe pas, parce que du moment que Bonaparte, que le consul, a enrôlé Dieu à son service, ce serait inconvenant de prétendre qu'il n'est pas là. En face, alors, l'Église. Ben, l'Église, évidemment, quoi, c'est le pape. Le pape, c'est un roi, chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est le drame de l'Église, au XIXe siècle, d'avoir eu des états temporels. Ce pape roi est un souverain comme les autres, qui était perdu parce qu'on lui a déjà dévoré une partie de ses états, les légations dont s'est emparé Bonaparte. Les légations, c'est Ravenne, c'est Ferrare, enfin c'est le nord des états pontificaux, et il meurt de peur. Bonaparte, c'est l'individu qui tient un pistolet, nous dirions aujourd'hui un Colt, n'est-ce pas, et puis il dit, si vous n'obéissez pas, je tire. Alors le pauvre pape, quand on lui demande de faire un concordat pour qu'on ne lui prenne pas encore d'autres morceaux de ses états, il est tout prêt à marcher. Mais il a à côté de lui des opposants vigoureux. Il y a un Lafare, Monseigneur de Lafare, par exemple, qui est un royaliste véhément. Lafare s'est réfugié à Rome, et lui, c'est le royaliste qui dit qu'il faut à tout prix empêcher un gouvernement non-bourboniens de s'entendre avec la religion, car, écoutez bien ce que dit Lafare, car le peuple pourrait en conclure que la royauté n'est pas nécessaire au salut. Il y a encore quelqu'un qui est archi opposé au concordat, c'est Maury. L'année dernière, je vous avais parlé de Maury. Maury, c'était le leader, comme on dit, de l'extrême droite à l'Assemblée constituante. C'était bien un abbé, putain, c'est très curieux, abbé, comme ça foisonnait au XVIIIe siècle, parfaitement incroyant et qui le disait. Par exemple, il avait toujours deux pistolets sur lui pour se défendre contre la canaille. Et il disait, c'est mes burettes. Ces pistolets, c'est mes burettes. D'autre part, il avait une formule qui plaisait dans les salons et qu'il aimait à répéter. Je ne mens jamais, disait Maury, excepté en chair. Alors vous avez Lafare, vous avez Maury, vous avez tout le clan des émigrés royalistes qui sont autour du pape et qui essaient de le freiner. Mais en revanche, Bonaparte, il a des alliés dans l'Église. Il en a trouvé un qui s'appelle Bernier. D'ailleurs, il le fera évêque. Bernier, c'était un chouan qui s'était révolté, bien sûr, qui avait marché avec les Vendéens, et puis qui, intelligent, astucieux, habile, ami du concret lui aussi, était passé du côté de Bonaparte, c'était le plus fort. Il aura également, Bonaparte, il aura Caprara, qui est un cardinal, qui sera même bientôt légat à Paris. Caprara, quelqu'un nous renseigne sur lui assez bien, c'est le valet de chambre de Bonaparte, Constant. On a republié récemment les mémoires de Constant, et Constant disait Caprara plaisait à tout le monde, excepté peut-être à quelques vieux prêtres chagrins, par la grâce de ses manières et le laisser aller de sa conduite. Ça veut dire que c'était un homme infâme qui était couvert de dettes, et deux fois Bonaparte lui perd à ses dettes, alors il le tient. Il a d'autres alliés encore du côté ecclésiastique, Bonaparte, il a ceux qui attendent des traitements. Je vais vous en parler dans un instant, l'Église n'est plus rémunérée, il annonce un concordat où les prêtres et les évêques vont être rémunérés, ça intéresse, vous pensez, beaucoup de gens. Quels sont les points litigieux pour décider Rome à marcher? D'abord, Rome voudrait, parce que c'est convenable, que la France déclare qu'elle a pour religion d'État le catholicisme. Oh, il est prêt à marcher, Bonaparte, religion d'État catholicisme, mais il s'aperçoit que du côté de son tribunal, où il y a Benjamin Constant et d'autres, on est furieux, enfin ça va faire une histoire, alors non, ben, il dit au pape, j'aime mieux par religion d'État, on va s'arranger en disant que c'est la religion de la majorité du peuple français. Mais en revanche, alors, les trois consuls, lui, Bonaparte, franc-maçon, Cambacérès, franc-maçon, et Lebrun qui ne l'est pas, vont faire, dans le concordat même, profession personnelle d'être des catholiques pratiquants. Deuxième obstacle, les congrégations. Il y avait beaucoup de congrégations en France avant l'Ancien Régime. Bonaparte ne veut plus en entendre parler. Il dit les congrégations, ce n'est pas utile. Ce sont des gens qui prient toute la journée, n'ont pas de contact avec le peuple, parce que ils ne peuvent me servir à rien. Il va tout de même céder sur un point, les congrégations missionnaires. Parce qu'il dit, ça, les missionnaires, ça peut me rendre des services. Les missionnaires, ils ont un costume religieux, par conséquent, ils sont insoupçonnables, et ils seront là pour me donner des renseignements militaires. Ils sont là aussi pour préparer des introductions commerciales, parce que c'est quand je veux bien pour les missionnaires. Oh, puis si vous tenez à quelques congrégations de femmes pour l'éducation des filles de bonne société, on peut s'arranger. La troisième difficulté, ça sera sur les traitements et les préséances, puisqu'il veut les payer maintenant, les ecclésiastiques. Combien? Oh ben, il veut les avoir au rabais. Il a décidé qu'il payerait les évêques 10 000 francs. Or, un membre du tribunal, par exemple, ça a 15 000 francs. Benjamin Constant, il a ses 15 000 francs. Pour vous rendre compte des prix, hein, ben dites 15 000 dollars ou en francs, vous multipliez par 4. Un sénateur a 30 000 francs. Un évêque, ça vaut 10 000. Hein. Et puis 15 000 pour un archevêque. Quant aux curés, on ne rétribuera que les curés titulaires. 3 000. 3 000 en tout, dans toute la France, qui seront rétribués de 1 000 à 1500 francs, c'est-à-dire moins que du temps de la constitution civile du clergé. Et puis il y a la question des nominations d'évêques, c'est très important. Et naturellement, Bonaparte exige d'avoir dans sa main les évêques. Il veut les nommer lui-même. Alors le pape dit oui, mais enfin, il y a l'institution, vous savez, l'institution canonique, comme on dit. Un évêque peut être désigné par le gouvernement, mais il ne peut pas être un vrai évêque tant que moi, pape, je ne lui ai pas donné l'institution. Bonaparte se méfie un peu en se disant, si le pape se met mal avec moi, enfin si ça tourne mal, il va me refuser les institutions, enfin ça fera une sale histoire. Ça va traîner ces négociations, surtout sur la question des institutions. Et quels sont les procédés de négociation de Bonaparte? C'est très intéressant. Cacco, c'est le chargé d'affaires qui l'a envoyé à Rome. Cacco a demandé un jour, dans un langage qui devait plaire à Bonaparte, quel degré de déférence il devait avoir à l'égard du pape. Dans quelle mesure? Et Bonaparte lui a dit, ben, mon Dieu, écoutez, traitez le pape comme s'il avait 200 000 hommes. Il y a des gens aujourd'hui, paraît-il, qui estiment leurs partenaires, d'après leur compte en banque, lui, il pense en termes d'effectifs. Ben, 200 000 hommes, pas 300 000, non, un monsieur qui aurait à peu près 200 000 hommes à sa disposition. Alors on va utiliser divers moyens, la menace par exemple, la menace d'un concile en France, un concile de l'Église française, un concile de l'Église gallicane, menace d'un schisme, ça ennuie beaucoup le pape. Alors jamais Bonaparte ne le ferait, mais enfin il pense que c'est un moyen de pression. Un autre moyen, côté de la menace, c'est la séduction. Et il y a un des délégués de Rome qui s'appelle Caselli, qui est un très brave homme, Et Bonaparte racontera, en se tapant sur les cuisses et en se frottant les mains, il racontera ça à Sainte-Hélène, comment il l'a eu, Caselli. Il dit, je l'avais ému aux larmes, en lui parlant de la Terre Sainte. En effet, vous savez que Bonaparte était allé en Terre Sainte lorsqu'il avait fait une expédition de Saint-Jean d'Acre. Caselli resta convaincu qu'un homme qui parlait avec cette chaleur des lieux saints ne pouvait qu'être utile à l'Église. Il faut aider le premier consul, disait-il. Il a plus de religion qu'on ne pense. Ce que c'est tout de même, hein, d'être intelligent. Alors il est salué comme ça d'avoir Caselli dans sa main. Puis il y avait le procédé, quand ça n'allait plus, de l'ultimatum. Deux fois, il y a eu ultimatum de Bonaparte au pape. Une première fois en mai 1801, où il lui a dit « Je vous donne 5 jours, et si dans 5 jours le concordat n'est pas signé, ben vous verrez ce que vous verrez », c'est-à-dire qu'il lui allait manger encore un morceau des États romains. Pauvre pape terrifié, n'ose pas signer tout de suite, mais envoie Consalvi, qui était son secrétaire d'État, enfin, sa première personnalité de Rome, qui va discuter le coup à Paris. Ça traîne encore avec Consalvi, si bien que le 13 juillet 1801, Bonaparte, cette fois, fait un deuxième ultimatum, non plus 5 jours, mais 48 heures. Nous sommes le 13 juillet. Dans 48 heures, vous signez. Ce ne sera pas tout à fait 48 heures, le pape va tout de même se résigner. On signera non pas le 15 juillet, mais le 16 juillet à 2 heures du matin, et on va signer la 21e rédaction du Concordat. Vous voyez si ça a traîné. Ça a traîné parce que le pape attendait toujours de voir comment ça allait se passer les affaires internationales. Et quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire, que l'Autriche canait avec le traité de Lunéville, que l'Angleterre allait caner, s'il n'a rien à faire, il n'y a qu'à marcher. Alors le voilà, ça y est, c'est signé, le Concordat est signé. C'est admirable, Concordat, la plus belle bataille, écrit M. Madeleine, la plus belle bataille qu'il aura été donnée à Bonaparte de gagner.